table une annonce. Frère, pouvez-vous faire une annonce, s'il vous plaît? Il y a un téléphone qui sonne au-dessus de l'oratoire, sans cesse, et il est impossible de ne pas l'entendre. Merci.
Il ne sonne plus.
Pardon?
Il ne sonne plus.
Ah bon? Je transmets, moi, je dis pas. Bien, bien. Et nous voilà donc au milieu de notre week-end. Effectivement aussi, avec les quatrièmes demeures que je me propose de voir avec vous cet après-midi, nous sommes aussi au centre de la procession, de l'avancée de l'itinéraire spirituel de Thérèse d'Avila. Et c'est un passage important. Les quatrièmes demeures nous parlent d'un tournant dans la vie spirituelle. Et je commence par citer un texte de Sainte Thérèse. Simplement, c'est donc dans le récit de sa vie. À partir d'ici, donc, elle a parlé d'abord de pratiquement tout ce qu'elle a vécu et qu'elle appelle les trois premières demeures. À partir d'ici, c'est un nouveau livre, ou plutôt une nouvelle vie. Celle dont j'ai fait le récit était ma vie. Celle que j'ai vécue depuis que j'ai commencé à parler de ces choses est celle de Dieu vivant en moi. Donc vous voyez la différence, n'est-ce pas? Excusez-moi, vous n'avez rien perdu. Non, ça arrive. Donc, nous passons à un stade où c'est Dieu qui prend, si vous voulez, la roue de la barre, n'est-ce pas, hein, et qui prend les choses en main. Et je voudrais commencer par une explication théologique, plus ou moins. On distingue souvent dans la vie, dans relation avec Dieu, la vie ascétique et la vie mystique. Quelle est la différence? Eh bien, dans la vie ascétique, c'est nous qui avons, pour ainsi dire, le rôle principal. Sans doute, on ne fait rien de bon sans la grâce. La grâce, elle est là, mais on pourrait dire incognito. Et donc, il nous faut traiter notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, un peu comme on traite toute entreprise. On prend les moyens qu'il faut, on évite les dangers qui peuvent être signalés, on repart quand on a un peu lâché, ainsi de suite, comme on mène une affaire. Ça, la grâce est là, encore une fois, mais on ne la connaît pas. La vie mystique, au contraire, eh bien, Dieu prend les choses en main. Ce n'est plus, si vous voulez, ce que nous vivons. Ce n'est plus quelque chose de décidé avec notre jugeote personnelle. Mais Dieu agit en nous et on peut s'en apercevoir. Nous éprouvons des choses qui ont, pourrait-on dire, le goût de Dieu. Nous ne faisons pas l'expérience de Dieu lui-même face à face, n'est-ce pas? Ça, nous espérons que nous y arriverons, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas pour ce monde. Et d'ailleurs, je vous citerai un texte tout à l'heure de l'Écriture qui est savoureux à ce point de vue-là. Mais nous pouvons reconnaître cette fois qu'il se passe en nous des choses qui nous sont en quelque sorte données. C'est comme, si vous voulez, nous reconnaissions l'action de Dieu en nous, et non pas seulement par les résultats mais aussi quand ça se passe même. Hein. Nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure des choses qui peuvent se passer et dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître. Parce que quand on parle de mystique, il ne faut pas tout de suite penser à des saints avec une statue et une auréole, hein, non. Quelques petites gouttes, comme m'a dit mon maître de noviciat, quelques petites gouttes de contemplation, c'est-à-dire de vie mystique, vous savez, ça arrive à tout le monde. Hein, bon. Eh bien, et c'est peut-être important de les reconnaître. Donc, hein, Dieu donne cela gratuitement, quand il veut, comme il veut, et dans la mesure même où il le veut. Nous aurons l'occasion d'en parler dès à présent, et plus encore demain, pour ce qui s'est passé dans la vie de Sainte Thérèse. Hein. Et il le donne vraiment comme il veut, parce que autant, par exemple, Sainte Thérèse a vécu des choses qui sortaient de l'ordinaire, autant, par exemple, une Thérèse de Lisieux en a vécu très peu. Hein ? Tout ce qu'on lit dans la vie de Thérèse de Lisieux, à peu près, on peut se dire, mais moi je peux en faire autant. Et on peut même se dire, j'en fais autant. Le faire âgé continue comme elle l'a fait, c'est une autre question, n'est-ce pas ? Et c'est en cela que consiste précisément sa sainteté exceptionnelle. Hein ? Mais on s'y retrouve. Et un saint Vincent de Paul, on voit, a connu très peu de ce genre de choses. Ça n'empêche pas d'être un grand saint. Alors, retenons bien cela, si vous voulez. La vie mystique, c'est Dieu qui fait reconnaître son action gratuite en nous. Alors, comment Sainte Thérèse nous présente cela? Et elle présente le commencement de ces choses dans les quatrièmes demeures. C'est donc dans les quatrièmes demeures que nous allons, auxquelles nous allons nous arrêter cet après-midi. Et Sainte Thérèse distingue deux choses. J'aimerais bien vous les présenter. Elle a une comparaison. Oui, il y a bien des comparaisons. Déjà, ce matin, nous avons vu, l'âme est un château, pas, ou un grand bloc de cristal, si vous voulez. Bon. Ici, elle va nous parler de deux bassins. Et je lis le texte. Voilà, j'y suis, j'avais bien marqué, mais il y a trop de marques. Dieu secourable, je lis assez longuement si vous voulez. Dans quoi me suis-je fourré? Je vous lis ça parce que c'est le style de Sainte Thérèse. Hein, hein. Et alors, je dis, j'avais oublié ce dont je parlais, car les affaires et ma santé m'obligent, etc. Bon. Alors, il me semble avoir déjà parlé des consolations spirituelles qui parfois, quand s'y mêlent nos passions, provoquent une frénésie de sanglots, etc. Bon. Il en va tout autrement de ce que j'appelle les plaisirs de Dieu et que j'ai nommé ailleurs aux raisons de quiétude. Et, alors, dites pour cela, pour mieux comprendre, supposons que nous voyons deux fontaines qui emplissent d'eau deux bassins. Et là encore, elle part dans une direction, disons, je ne trouve rien qui se prenne mieux que l'eau à l'explication de certaines choses spirituelles. Bon, très bien. Bon. Et il dit, ces deux bassins s'emplissent d'eau par des moyens différents. Pour l'un, elle est amenée artificiellement de loin par de nombreux aqueducs. Il a fallu fabriquer, même aussi, on apporte l'eau pour en vider dans le bassin. Là, c'est moi qui commande. L'autre a été creusé à la source même de l'eau et il s'emplit sans bruit. Si la source est aussi abondante que celle dont nous parlons, lorsque le bassin est plein, il en déborde un grand ruisseau. Il n'y a pas besoin d'artifice. Peu importe la ruine de l'aqueduc, l'eau jaillit toujours du même point. Telle est la différence. Celle qui vient par les aqueducs s'assimile, ce me semble, au contentement qu'on obtient par la méditation, par nos pensées qui les procurent, en nous aidant des choses créées pour méditer par un effort, bon, etc. De l'autre bassin, l'eau naît de la source même, qui est Dieu. Donc, comme Sa Majesté le veut, quand sa volonté est d'accorder une faveur surnaturelle, elle émane avec une quiétude immense et paisible du plus intime de nous-mêmes. Je ne sais où ni comment il se fait que ce contentement et cette délectation ne se ressentent pas dans le cœur comme les joies d'ici-bas. Voilà donc le texte. Essayons de voir, de comprendre un petit peu ce qu'il dit. En espagnol, Thérèse appelle la première source de gratification dont on a parlé, elle appelle ça des contentos. Et l'autre, elle l'appelle des gustos. Alors, les contentos, si vous voulez, on est heureux parce qu'on a obtenu un résultat par nos efforts. On a réussi. Et on sait pourquoi on est heureux. Quand on a fait ce qu'on avait à faire, qu'on l'a fait bien, que voilà, tout est bon, nous sommes contents. Et nous dirons bien, ben, il y a de quoi, n'est-ce pas ? Oui, tout simplement, bien sûr. On sait pourquoi on est content. Ou bien encore quand il y a un événement. C'est Thérèse dans un autre passage qui parle de la femme qui voit son mari revenir de la guerre, sain et sauf, ben, on comprend qu'elle lui fasse des joies, n'est-ce pas ? Il y avait des joies, oui, oui. Ça. Alors, il y a dans la vie que l'on mène, la vie de relation avec Dieu, puisque c'est ça qui nous occupe tout le week-end, eh bien, il y a ainsi des choses dont nous sommes contents. Nous avons fait un effort, nous avons un défaut, par exemple. On en a tous. Bon, je me dis d'aucun d'entre vous en disant qu'il y a des défauts, n'est-ce pas ? Eh bien, mais ces défauts, nous essayons de les combattre. Et puis, il peut arriver qu'au bout d'un certain temps, même, disons, ah ben, ça y est, quand même, c'est venu. On ne pourra plus me reprocher ceci ou ça, n'est-ce pas ? Alors, on est content. Même si c'est la grâce qui l'a fait, on ne l'a pas senti, la grâce, non ? Mais, au contraire, n'est-ce pas, on a bien senti la peine qu'on y a mise pour y arriver. Et on est content du résultat. Thérèse appelle ça des contentos. Au contraire, les gustos, ça vient quand on ne sait pas, quand on ne s'y attend pas nécessairement. Et comme ça, tout simplement. Et je prends un exemple, si vous le voulez. On y reviendra peut-être encore au cours de cette causerie. Vous êtes à l'horizon. Bon. Vous avez choisi votre texte. C'est un texte de la Bible, mettons, n'est-ce pas, de l'Évangile, peu importe. Bon. Vous l'avez lu. Et puis, vous vous mettez en présence du Seigneur. Bien tranquillement, pieusement, je suppose, pendant cette retraite, vous allez à la chapelle, et puis vous vous concentrez en disant « Le Seigneur est là ». Il est là. Je suis là, devant lui. Bon, bien. C'est parti. Deux ou trois minutes après, Dieu sait où vous êtes. Vous n'êtes plus à la chapelle, vous êtes parti, Bon. Mais il peut arriver, par exemple, qu'un jour ou l'autre, vous êtes là, recueilli, et vraiment, voilà que ça dure. Et même Il y a une porte qui s'ouvre. Votre premier réflexe habituellement serait de voir. Non, là, simplement, pris. Bien. Ça peut durer quelques minutes, même un peu plus long quelquefois. Et quand vous partez, vous dites, ah bon, ben cette fois, je sais comment on fait oraison. Hein. Je vais recommencer ce soir, hein, ou demain. Demain, vous vous retrouvez dans vos gros sabots, hein, exactement. Cette fois-là, ça vous a été donné. Hein. Et il n'y a pas de recette pour y parvenir à cela. C'est simplement, là, le Seigneur qui vous a pris et qui vous a recueilli. Vous avez éprouvé, véritablement, un passage gratuit de lui-même. Hein. Alors, vous voyez, c'est là, pour en revenir à la... Alors, là, je parle d'un recueillement. Quelquefois, ça peut être au contraire. Hein. La joie. La joie de d'être là en présence du Seigneur, il n'y a rien de particulier, mais vous éprouvez non plus seulement un recueillement, mais la joie. Ou bien encore, il y a une question difficile, un problème difficile qui vous taraude là depuis quelque temps, et vous vous demandez si vous allez vraiment pouvoir avoir le courage de le faire. Et puis là, vous éprouvez, ben si on va y aller, le Seigneur sera avec moi. Je pense à la réflexion d'une jeune fille qui me racontait une chose, qui me disait, elle allait se trouver devant quelque chose de difficile, et elle me dit, je vais en baver, oh mais ça ira, le Seigneur est avec moi. Plutôt non pas le Seigneur est avec moi, non il pas dit ça, le Seigneur sera avec moi. Mais ça lui arrivait maintenant, alors que pendant un certain temps elle s'était dit, ben j'y arriverai pas, etc., tout ça, et là, allez, il y avait quelque chose qu'elle ressentait. Donné gratuitement, vous voyez. Alors c'est cela, si vous voulez, qui constitue les petites premières gouttes de vie mystique, si vous voulez. Hein. Alors nous verrons dans la vie de Sainte Thérèse, dans les trois dernières demeures, que cet âge continue, n'est-ce pas? Bon, mais comment pour? Ce sont des choses qu'il faut reconnaître et reconnaître qu'elles arrivent, n'est-ce pas? Et justement, après avoir parlé comme ça de ces contentos, de ces gustos, bien, il est important pour nous, hein, de percevoir un peu l'intérêt que ça peut avoir. Parce que il nous faut partir de ceci. Le Seigneur nous a fait, à chacun d'entre nous, si nous sommes ici aujourd'hui, un certain nombre de grâces gratuites. Combien d'hommes, de femmes, même chez nous, hein, n'auront jamais vécu ce que nous vivons là. Hein. Eh bien, on peut à certains moments peut-être être saisi de reconnaissance pour tout ça. Hein. Mais en tout état de cause, dès le départ, c'est Dieu qui a l'initiative. Nous sommes venus au monde. Combien d'autres auraient pu venir au monde à notre place? Simplement même du fait des relations de nos parents. Hein. Ça s'était fait à un autre moment, etc. Ben oui, ce ne serait pas nous qui nous serions revenus au monde à ce moment-là. Le Seigneur a voulu que nous y soyons. Eh bien, alors, il est important, je crois, hein, de reconnaître ce genre de choses. reconnaître ce genre de choses, oui, même quand, encore une fois, nous éprouvons ce que Thérèse appelle des contentos, tout simplement. Quand nous avons fait ce qu'il faut faire, conformément à son esprit, à lui. Mais il nous faudrait être attentif aussi à ces petites choses, peut-être, et quelquefois un peu plus grosses, qui nous sont données et qui sont gratuites. Je peux me permettre de témoigner, je crois, d'un témoignage personnel qui n'engage en rien, ma personnalité, mais qui m'a été donné. Il est possible que deux ou trois personnes ici voient de qui il s'agit, mais ça n'a pas grosse importance. Vous allez voir pourquoi, au contraire même peut-être. Il m'est arrivé dans ma vie d'orienter une jeune fille vers une congrégation religieuse. Je me suis occupé de beaucoup de religieuses, mais je n'en ai conduit qu'une seule, hein, jusqu'à une congrégation dans laquelle je l'ai engagée. C'était une fille qui avait été confiée à l'assistance publique et qui, à 17 ans, avait découvert simplement, parce qu'on l'avait mise dans une famille où ça s'était passé, hein, qui était le Seigneur. Et elle s'est dit à ce moment-là, si c'est ça, le Seigneur, moi, il n'y a que lui qui compte, hein, il n'y aura pas d'autre dans ma vie. Moi, je l'ai accueilli parce que j'avais l'occasion d'un ministère auprès de, enfin, là où elle était à ce moment-là, et je l'ai orienté vers une congrégation religieuse, carmélitaine, il faut dire, dans laquelle elle est entrée. Elle a fait un très bon noviciat, heureuse. J'ai assisté à sa prise d'habit, et la prise d'habit se faisait à ce moment-là dans le manteau blanc du Carmel. Et ça s'est bien passé, à peu près. On lui a fait faire une formation d'aide-soignante. On l'a mise dans une congrégation, dans une communauté de la congrégation qui tenait une clinique. Bon. Et très vite, elle est apparue comme adorée des personnes qu'elle rencontrait à l'extérieur et impossible en fraternité, ou à peu près. C'était comme si tout le malheur de sa vie d'enfant, de la DAS, enfin, etc., remontait à ce moment-là. Alors bon, on lui a changé bien des fois, plusieurs fois en tout cas, sa fraternité. Bon, ça a duré une quinzaine d'années à peu près. Et puis au bout d'une quinzaine d'années, elle a demandé régulièrement à être relevée de ses vœux et elle est partie. Je l'avais suivie pendant tout ce temps-là, je l'avais accompagnée. J'ai continué à l'accompagner un an ou deux après, parce qu'elle est restée dans le même poste d'aide-soignante qu'elle avait, hein, même n'étant plus religieuse. Et puis au bout de... Oh, elle avait la tête près du bonnet. Hein, au bout de 2 ans, elle m'a claqué la porte au nez aussi. Hein, et j'ai perdu sa trace. J'ai perdu sa trace pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'ai rencontré ici, j'étais entré au Carmel, une religieuse de sa congrégation qui me dit « Vous connaissez une telle ?»« Oui. »« Ah bien, elle était restée en relation avec certaines des sœurs de sa congrégation. »« Oh, elle m'a parlé de vous, elle m'a dit qu'elle serait contente de vous revoir. » »« Ah bon, bien. » Comme j'avais l'occasion à ce moment-là de la revoir, hein, et la religieuse qui m'en avait parlé ne m'avait pas dit ça, mais j'ai pris contact avec elle, j'avais l'occasion d'aller à Paris de temps en temps, parce qu'elle était dans la région parisienne, on a pris rendez-vous, et j'ai trouvé une femme dégradée par l'alcool. Elle avait fait une tentative de mariage. Ça n'avait pas marché. Et Et j'ai trouvé vraiment cette fille qui était vraiment bon, belle à voir. Eh bien, là, ça avait changé véritablement. J'avais l'occasion d'aller à Paris plusieurs fois. On s'est revus un certain nombre de fois. Et puis un beau jour, et alors elle avait abandonné toute pratique religieuse aussi. Hein. Et un beau jour, je n'étais pas ici, j'étais dans un autre couvent, je reçois un téléphone. Je vous raconte cette histoire parce que, bon, je crois que ça vaut la peine. Et je reçois un coup de téléphone. J'arrive, j'étais à Toulouse à l'époque. J'arrive à Toulouse. Bon. Il y avait à Toulouse un institut de désintoxication. Hein, et elle avait choisi cette fois-là, ce n'est pas la première désintoxication qu'elle faisait, mais ça avait lâché. Et donc elle avait choisi cette fois-là parce que j'étais là. Et donc là, nous nous sommes retrouvés. Elle a passé 5 semaines dans cet institut. Je l'ai revue plusieurs fois. Et j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait quand même un retournement qui se faisait petit à petit. Elle m'a parlé de son passé, et dans un sens tout à fait apaisé, vous voyez, de sa vie religieuse, on en a reparlé, etc. Et puis elle est partie. Je ne l'ai plus revue. Et moins d'un an après, je reçois un coup de téléphone un matin de l'une des religieuses avec qui elle était restée en rapport, qui me dit « elle est morte ». Elle m'avait quand même téléphoné auparavant, deux ou trois mois auparavant, en me disant qu'elle allait entrer en clinique et qu'elle avait très peur. Bon. Je pense qu'elle devait sentir la mort venir. Oui. Alors ce matin-là, à 7h du matin, pendant mon oraison, je reçois ce coup de téléphone. Et quand je suis rentré à l'oraison, après encore, j'ai été bouleversé. Nous étions le 14 novembre 1992, je peux le dire. Cette date ne vous dit peut-être rien, mais au Carmel, c'est le jour où on fête tous les saints du Carmel. Elle était morte à 2h du matin ce jour-là. Le lendemain 15, nous prions pour les âmes du purgatoire, de l'ordre, qui ont besoin de prière encore. Mais le Seigneur était venu la chercher hein, à 2h du matin, le jour en fait tous les saints du Carmel. Jusqu'au bout de... Elle avait fait profession dans le manteau blanc du Carmel. Le Seigneur est venu la chercher le jour de tous les saints du Carmel. Je crois que c'est pas banal. Vous n'êtes pas obligé de trouver ça étonnant, mais en tout cas pour moi, c'était une réponse extrêmement précise. D'autant plus, et ça je lui ai réalisé que quelques mois après, eh bien, je me suis rappelé quelque chose qui n'est pas de foi. Non, on n'est pas obligé d'y croire. Mais il y a dans la tradition du Carmel, tout à l'heure vous avez entendu parler de Saint-Simon Stock, là, par exemple. Un Simon Stock est un des premiers supérieurs du Carmel, a eu une apparition de la Vierge Marie qui lui a donné le scapulaire en lui disant « J'obtiendrai de mon fils que ceux qui porteront ce scapulaire ne resteront pas en purgatoire au-delà du samedi qui suit leur mort. » Encore une fois, c'est une pieuse croyance, on n'est pas obligé d'y adorer, bien vu tes frères. Et c'est quelques mois après que ce 12 octobre en plus était un samedi. Voilà toute l'histoire, vous voyez. Bon, mais je pense que il y a dans nos vies des petites choses qui sont peut-être moins flagrantes que celles-là, mais qu'il faut apprendre à regarder et à voir, ça. Je dirais être attentif à voir l'événement avec les yeux que le Seigneur nous donne, les yeux de la foi. Et il y a des coïncidences comme ça, celles que je viens de vous dire, n'est-ce pas? Il y a des événements qui sont une réponse à notre prière. Là, c'était aussi le cas, parce que j'avais gardé cette vie dans la prière. Il peut avoir aussi, par exemple, des choses, j'en ai déjà parlé, qui nous permettent de découvrir un sens aux Écritures, à telle ou telle parole, et un sens qui est valable pour nous. L'Écriture nous dit ceci ou cela. Ou encore, faire une rencontre qui a du sens. Vous voyez, je passe mon temps, une grande partie de mon temps, dans les parloirs. Je n'ai plus de ministère extérieur, mais je vois pas mal de gens. Et les personnes me parlent de leur vie, de leur rapport, etc. Et quelquefois, la personne me dit quelque chose qui pour elle a du sens. Et moi, j'entends, je me dis, tiens mon garçon, prends ça pour toi. C'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Bon, oui. Et la personne qui me parle ne se doutera jamais de rien, n'est-ce pas? Et c'est pas la peine. Et bon, c'est pas des miracles, ce genre de choses. Hein. Ça s'explique très bien. Mais il faut encore voir le sens que le Seigneur leur donne. Je crois que c'est important, vous voyez? Et voyez, là, tout simplement, ça, il n'y a pas lieu de voir des miracles en tout dans tout cela, ça, et pourtant, y voir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas exactement la même chose. Et nous nous retrouvons là, devant des choses que nous ne pouvons pas réaliser nous-mêmes. Elles nous sont données gratuitement, et elles arrivent comme cela. Je vous ai lu l'histoire des deux bassins. Bon. Eh bien, il y a un bassin qu'on remplit avec un aqueduc, mais il faut bien que quelqu'un pompe l'eau pour arriver jusque-là, n'est-ce pas? Ou du moins, qu'il y ait... il y a tout un travail pour que ça se remplisse, et ça se remplisse du dehors. Une conversation, un événement, etc. Et il y a aussi des choses qui se remplissent du dedans. Cela veut dire que le Seigneur nous donne à ce moment-là, telle chose, sans que nous ayons pris part, si vous voulez, à l'obtention de cette chose-là. Ne pas voir des miracles partout, mais, eh bien, si l'on vit en fréquence avec Dieu, on reconnaît ce genre de choses. Et il y a une chose aussi que l'on reconnaît, et que le Seigneur nous donne de reconnaître, quelquefois, c'est parce qu'on est avec lui, nous faire reconnaître tel ou tel défaut, ou la malice de telle ou telle action que nous avons posée, que nous n'avions peut-être pas réalisée. Et nous découvrons à ce moment-là, gratuitement de la part de Dieu, nous découvrons encore à ce moment-là sa présence et son action en nous. Ça fait cela aussi quelques petites gouttes de contemplation. Je vous parlais ce matin de la sécheresse. La sécheresse, ça peut venir tout simplement le fait qu'on n'est pas inspiré, pas rien du tout, par le texte, c'est pas dans l'oraison. Mais quelquefois aussi, peut-être, là, on peut se demander, mais le Seigneur nous donne cette chose-là pour nous faire comprendre qu'il est au-delà de tout. Il est l'au-delà de tout. Dieu n'est pas quelqu'un. Ça, je dois vous faire réagir probablement. Donc, Dieu n'est pas quelqu'un, parce que s'il était quelqu'un, il ne serait pas trois quelqu'un. Or, il est trois quelqu'un. Et on comprend peut-être à partir de là ce que Dieu, cet homme, quand il se nomme, ou quand on le nomme dans l'Écriture, Dieu est amour. Dieu n'est pas quelqu'un qui aime, non. Il est trois quelqu'un qui aime. Et trois quelqu'un qui sont un seul amour. Parce que l'amour, si vous voulez raconter une histoire d'amour, un amour, l'histoire d'un amour, qu'est-ce que vous allez raconter? Vous allez raconter l'élan d'une personne vers une autre. Ce désir qu'elle a de se donner, de donner à l'autre en tout cas quelque chose de soi, n'est-ce pas, hein? Voilà. Parce que cet autre, finalement, eh bien, l'attire. Mais il n'y aurait pas d'histoire d'amour si cet élan-là n'était pas accueilli et retourné, rendu. Et quand il est retourné et rendu, il se passe quelque chose entre eux. Lorsqu'il s'agit d'un mariage, eh bien, il y a l'enfant qui est au bout. Et quelquefois, simplement, cet amour entre deux personnes, un amour d'amitié par exemple, peut aboutir à une œuvre commune qui porte la marque des dieux, des deux à la fois. Autrement dit, l'amour est tripolaire. Et on comprend d'ailleurs à ce moment-là que Dieu est don de lui-même, expression de lui-même, et il est père. Dieu, quand il est exprimé, il est par la parole qu'il a, il est le Verbe et il est Fils. Et de leur union réciproque, il y a leur joie commune et qui est communicative, et c'est l'Esprit. Je ne vous ai pas expliqué le mystère de la Sainte Trinité, il reste pour autant. Mais voyez, ce sont des choses, n'est-ce pas, que l'on peut comprendre. Parce que finalement, ben, le Seigneur nous les fait comprendre, hein, tout simplement. Alors, voyez, hein, bien, dans tout cela, la conclusion de tout ceci, c'est que nous avons à faire attention aux attentions que Dieu a aussi pour nous. Et ça nous permet, encore une fois, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de qui ? Nous savons de qui nous parle. Nous parlons. Nous savons, non pas parce que nous l'avons vu, mais parce que nous avons éprouvé son passage, si vous voulez, en nous. Et je voudrais terminer tout simplement par un passage de la Bible qui est très joli. Je vous le mettrai là, d'ailleurs, la référence, à condition que vous ayez la Bible. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Exode, au chapitre 33 de l'Exode. Moïse, hein, il est monté sur la montagne, il a reçu les tables de la loi, hein, et il est remonté plusieurs fois sur la montagne. Et à un moment donné aussi, au chapitre 33, il discute avec Dieu. Moïse dit au Seigneur, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Qui avait pourtant dit, « Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Si donc j'ai trouvé grâce à mes yeux, à tes yeux, daigne me faire connaître tes voies pour que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. » Alors le dialogue continue, et Moïse lui dit encore, fais-moi de grâce voir ta gloire. Ta gloire, c'est-à-dire finalement le rayonnement que procure ma vie, n'est-ce pas, que procure mon être. Fais-moi voir ta gloire. Et Jésus, et il dit, le Seigneur, je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom de Dieu. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ils verront le Seigneur face à face qu'après la mort. Et le Seigneur dit encore, « Voici une place près de moi. » On lui dit, « Oui, tu es mon ami, je vais faire quand même quelque chose pour toi. » « Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos. Mais ma face, on ne peut la voir. » On ne voit le Seigneur que de dos, si vous voulez, en ce monde. Je crois que ça vaut la peine d'être médité. On voit ces passages. Mais on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne l'entend pas lui-même. Et je voudrais à ce sujet-là faire une remarque à ce que vous avez, vu tout à l'heure dans le film aussi. Sainte Thérèse parle souvent de visions qu'elle a eues, ou de paroles qu'elle a entendues. Mais Sainte Thérèse n'est pas Jeanne d'Arc. Elle n'a pas eu les voix comme Jeanne d'Arc. Elle n'a pas entendu les choses de ses oreilles. Elle n'est pas Bernadette de Lourdes. Elle n'a pas vu la Vierge ni le Seigneur comme Bernadette de Lourdes. Tout pour elle s'est passé à l'intérieur. Et donc, les paroles qu'elle entend, ce sont des paroles qui lui viennent à l'esprit, avec une netteté d'ailleurs, dont elle dit qu'on ne peut plus les oublier. Et la première parole qu'elle a entendue comme ça, c'est « Je ne veux pas désormais, quand tu parles avec les hommes, que tu converses avec les hommes, mais que... » Ah oui, on ne me rappelle plus, exactement. C'est quelque chose comme cela. Et donc, elle l'a entendu que, intérieurement, et de même, les visions qu'elle dit, sont des visions intérieures. Rappelez-vous des scènes que vous avez vécues et qui vous ont marqué. Vous les revivez, vous les voyez en vous, intérieurement. Ou des choses encore que vous avez lues, et vous les imaginez intérieurement. Elles passent dans votre psychologie. Eh bien, ce que Thérèse appelle les visions, elle, c'est quelque chose comme cela. Et d'ailleurs, elle distingue deux formes de visions. Ce qu'elle appelle les visions en image, c'est-à-dire elle voit une scène. Elle voit une scène, et cette scène s'imprime dans sa psychologie d'une manière très intense. Il peut y avoir, vous voyez, des scènes de la Passion, par exemple, qui nous apparaissent comme cela, intérieurement. Je pense à quelqu'un qui m'a dit un jour avoir été très impressionné par un détail de la Passion. Lorsque le Seigneur est mis en croix, bon, personne n'avait réalisé ça, ce que ça peut être, n'est-ce pas ? On perce le poignet, et le nerf qui est là, n'est-ce pas, provoque une douleur intolérable. Mais bref, bon, ça c'est médical. Et cette personne me disait, et je pense qu'à ce moment-là, où tout l'être doit se replier sur soi-même, le Seigneur ait pu penser à ces bougres de soldats qui étaient là à faire leur travail en service commandé, et pouvoir dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une scène qui l'avait beaucoup frappé, vous voyez. Et bien, des visions comme ça, c'est deux choses comme ça que Sainte Thérèse parle quand elle parle de ses visions en image. Et quand elle parle de ses visions intellectuelles, eh bien, c'est un peu autre chose aussi. C'est qu'elle comprend telle ou telle parole de l'Écriture ou qu'elle comprend intérieurement, par exemple, l'importance de l'incarnation. Comment le monde qui, de par sa propension au péché, tourne le dos au Seigneur et s'en éloigne, il y a quelqu'un qui vient, qui porte sur son dos, qui vient et qui naît, comme tout le monde, pas tout à fait quand même, hein, mais enfin, il naît de la Vierge Marie, il prend une véritable, un véritable homme, donc il a droit de causer au nom des hommes, et il subit tout, à peu près toutes les misères que les méchants de ce temps peuvent porter sur lui, et il reste fidèle à dire oui à Dieu. Alors là, vous voyez, le contact est rétabli. Eh bien, quelque chose comme ça, si vous voulez aussi, c'est une compréhension intellectuelle. Hein ? Et ça, le Seigneur le donne. Alors, retenons, il est temps que je m'arrête, hein, les quatrièmes demeures, c'est le commencement de ces choses-là, hein, que Thérèse éprouve. Demain, nous verrons ce qu'elle a éprouvé en grand et ce que ça peut nous apporter à nous. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir que ces premières petites gouttes, je veux dire, hein, de vie mystique, ben, peut-être bien que ça nous arrive de temps en temps. Dans une vie sérieuse avec le Seigneur, il faut reconnaître ces petites choses-là. Il ne faut pas crier au miracle, il ne faut pas nécessairement non plus se voir avec une auréole, ne pas un jour ou l'autre, et canoniser, non. Mais simplement, un bon chrétien, ben oui, de temps en temps, le Seigneur lui fait cette petite faveur. Voilà. Et je vous donne la référence exacte du texte où on dit qu'on voit le Seigneur passer de dos. Hein, c'est, si vous avez la Bible, enfin oui... Vous pouvez la trouver. Oh, vous avez une des Bibles là aussi. C'est donc au livre de l'Exode. Chapitre 33, verset 18, 23. Voilà, c'est un passage court. On a un peu plus long autour, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est ça. Vous que Sainte Thérèse d'Avila, ben, elle a 500 ans aujourd'hui. Oui, puisque c'est vraiment l'anniversaire de sa mort, n'est-ce pas?
Oui.
C'est
de sa naissance
ou de sa mort?
Pardon, pardon, excusez-moi, c'est de sa naissance, c'est pour ça. Pour ça, je dis qu'elle a 500 ans, n'est-ce pas? Oui, 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 excusez-moi, oui. Vous avez raison de me relever. Le 28 octobre, d'ailleurs, à sa naissance, on parlait encore du 4 octobre, parce que le calendrier n'avait pas été arrangé.
C'était le 15 octobre.